61 pour la Bourse de Paris, Vincent Bezeau pour France Inter.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
14h03 sur France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire. Patrice Julien, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, deux grands travaux dans les Alpes, le téléphérique de l'Aiguille du Midi, et bien sûr, il en est beaucoup question en ce moment, le tunnel du Mont Blanc.
Voilà foré à sa base, le plus haut sommet de l'Europe. Voilà vaincu les éternels obstacles que sont l'altitude et les neiges.
Ans d'histoire. Au moment où se déroule le procès du tunnel du Mont Blanc, certains se souviennent peut-être de l'époque où on l'appelait la montagne maudite. C'était le temps où le plus haut sommet d'Europe faisait si peur que personne n'osait y monter. Puis, avec Horace Bénédicte de Saussure, vint le temps des premiers alpinistes. Mais il n'était pas encore question de franchir cette barrière naturelle de plus de 4000 mètres de haut qui séparait l'Italie de la France. Pour aller de Courmayeur, dans le Val d'Aoste, jusqu'à Chamonix, distant d'une quinzaine de kilomètres à peine, il fallait alors faire 200 kilomètres de route, jusqu'à la réalisation de deux projets insensés, conçus à peu près en même temps, construire le plus haut téléphérique et le plus grand tunnel routier du monde. Le premier, le téléphérique de l'Aiguille du Midi, fut inauguré en 1955, 7 ans avant que des ouvriers italiens et français se retrouvent sous 2500 mètres de roche au milieu du tunnel du Mont-Blanc. C'était le 14 août 1962.
Messieurs, dans 2 minutes, la dernière explosion marquera l'achèvement de la percée du tunnel du Mont-Blanc.
Messieurs, attention ! 1, 2, 3.
Et nous voici précisément, exactement sur la paroi qui vient de s'abattre au moment où les deux équipes s'atteignent. Ce sont des éclairs de part et d'autre, au premier rang évidemment de chaque côté, les photographes, les reporters, les journalistes. Et voici les mineurs italiens qui descendent du côté français, les mineurs français qui atteignent le côté italien. Et ce sont des cris de joie partout, on se serre la main, on se salue, on se congratule.
Pierre Louis Roy et Bertrand Lemoine, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était le 14 août 1962, il y a 42 ans, la jonction entre les ouvriers italiens et français qui depuis 3 ans déjà creusaient le tunnel du Mont Blanc, où 37 ans plus tard, en 1999, se produisait une catastrophe dont on cherche à établir en ce moment même les responsabilités. Mais j'aimerais qu'avec vous on revienne sur la construction non seulement du tunnel, mais aussi de cette autre entreprise gigantesque qui a été le téléphérique de l'Aiguille du Midi, car des deux projets, vous l'écrivez dans un livre, Pierre-Louis Roy, sur l'Aiguille du Midi. Les deux projets, en fait, ont été imaginés à peu près en même temps. Et il y a un homme, d'ailleurs, qui les a imaginés tous les deux en même temps et qui était un Italien, Dino Laura Totino. Hein, c'est ça, Pierre-Louis Roy?
C'est ça, Dino Laura Totino est presque à l'origine des deux projets. Du tunnel du Mont-Blanc dans un premier temps et de façon presque fantasque, puisqu'à la fin de la guerre, alors que l'Italie est presque en ruine, qu'il y a un certain antagonisme entre la France libérée et l'Italie fasciste qui vient d'être avec la guerre qui s'achève. Laura Totino, qui est au pied du massif du Mont-Blanc pour réparer un de ses téléphériques construits sur le versant italien.
Oui, c'était grand constructeur de téléphériques, hein, Laura Totino, un peu partout d'ailleurs.
Il avait même construit toute pièce une station dans les années 30 à Servignac, qui lui a valu d'être anobli par la famille royale, comte de Servignac. Et il a tout d'un coup l'idée de percer un tunnel entre Courmayeur et Chamonix, plus dans une logique d'ailleurs de transport interrégional qu'avec une vraie dimension internationale, et à ses propres frais.
Ah oui, c'est incroyable ça. Et sans tenir compte de l'avis du gouvernement français, parce qu'après tout, c'est un tunnel qui doit réunir l'Italie et la France, mais il s'en occupe pas. D'ailleurs, ça provoque la colère du ministre des Travaux publics de l'époque, qui était Jules Moc, qui disait on va leur montrer qui commande. Ils ne l'ont pas encore leur tunnel. Mais alors lui, il démarre tout seul, comme ça, elle s'effraie.
Bon, en fait, le Val d'Aoste veut montrer un peu son autonomie par rapport à Rome. Il négocie d'avoir une parcelle de terrain pour commencer ses travaux et il prend contact avec un certain Philippe Hénon des Ayoux, qui est conseiller général de Haute-Savoie, élu du canton de Chamonix, et qui va l'aider dans ce projet, presque en tant que vitrine légale, pour lui montrer et lui rappeler que la France est un pouvoir centralisé fort. Il y a l'État, il y a le corps des ingénieurs des ponts et chaussées qui sont là pour veiller au grain.
Vous connaissiez cet épisode de Bertrand Lemoine ?
Non, non, pas du tout, mais c'est effectivement vers cette époque qu'on commence à imaginer le franchissement des Alpes aussi, dans les années 1830-40, avec cette barrière formidable que constitue le massif alpin. Et on va effectivement imaginer les premiers projets qui vont se concrétiser sous le Second Empire.
Alors le premier projet, c'est d'abord de franchir les Alpes par au-dessus, c'est-à-dire le projet d'un téléphérique atteignant, non pas l'Aiguille, mais le col du Midi, qui est un peu au sud de l'Aiguille. Et ce projet, justement, on va y retrouver Laura Totino, puisqu'il va en être un des principaux exécutants. C'est un projet qui est très ancien, bien avant Laura Totino. On avait pensé atteindre cette aiguille spectaculaire qu'on trouve au-dessus de la vallée de Chamonix, Pierre-Louis Roy.
C'est un projet qui a tout juste 100 ans cette année, puisqu'en 1905, deux ingénieurs allemands et suisses, et un promoteur d'origine suisse, mais qui a fait fortune en Amérique du Sud et qui est naturalisé français, se lancent dans la construction du téléphérique de l'Aiguille du Midi avant de se rabattre sur le col du Midi, et proposent un projet de funiculaire avec ensuite des ascenseurs à câbles, très pionniers pour l'époque. Tout ça dans un contexte où Chamonix lutte avec Saint-Gervais pour conquérir le sommet du Mont-Blanc, puisqu'au départ de Saint-Gervais, on vient de commencer la construction d'un tramway à crémaillère, dont l'objectif est d'atteindre le sommet lui-même.
Mais est-ce qu'il s'agissait seulement d'une ambition, si je puis dire, touristique ? Est-ce qu'il s'agissait de développer le tourisme à Chamonix en permettant aux Français d'atteindre, sans trop se fatiguer, un des plus hauts sommets des Alpes ? Parce que vous dites aussi qu'il s'agissait déjà, on pensait déjà, et d'ailleurs c'est réalisable aujourd'hui par téléphérique, de traverser les Alpes, non pas par en dessous avec le tunnel, mais par au-dessus.
Ça c'est l'idée qu'aura l'ingénieur italien que vous citiez tout à l'heure, Dino Laura Totino. C'était son fantasme à lui que traverser les frontières. Il essayait de le faire entre sa station de Cervinia et Zermatt en Suisse. Il comptait le faire au-dessus de la vallée Blanche et ses 5 km de glacier en largeur pour rejoindre Courmayeur.
Alors, projet conçu en 1905, premier projet, hein, et puis qui n'atteint pas l'aiguille, parce qu'on paraît que ça paraît trop compliqué, mais à côté de l'aiguille, le col du Midi. Et là, on va jamais y arriver. Ça ne va jamais se faire. Ce premier projet va tomber à l'eau.
Oui, en fait, on atteint d'abord le pied de l'aiguille du Midi à 2400 mètres d'altitude avec le funiculaire aérien des glaciers. Puis, juste avant que la Deuxième Guerre mondiale n'éclate, on relance le projet pour atteindre le col du Midi. Et là, ce sont des chasseurs alpins, des guides qui vont, à main d'homme, construire une ligne de service qui va permettre au passage à la France de se battre pendant la guerre, puisqu'à la fin de la guerre, la plus haute bataille des Alpes aura lieu au col du Midi.
Ah oui.
On montera des canons en pièces détachées grâce à cette ligne de service. Qui permettra de libérer cette zone frontalière des Alpes.
Et alors brusquement on découvre comme ça, après des années, plus de 40 ans d'efforts, on découvre que ce premier projet, bah, il vaut pas grand chose, et c'est là que Laura Totino et d'autres personnes, je pense à De Seyoux, je crois qu'il était conseiller général dans les Alpes, disent, bah voilà, on va atteindre, il y a un autre projet, alors là qui est même à la limite plus fantastique encore, c'est d'atteindre l'aiguille, cette fois-ci plus haut que le col, plus haut que le col, et de l'atteindre par le plan de l'aiguille, c'est-à-dire par le nord, en fait, enfin par le nord de l'aiguille du Midi. Et ça, c'est un projet gigantesque, ça suppose une portée gigantesque, ça.
Voilà, qui était au-dessus des standards de l'époque, une portée de près de 3 km de long, et puis comment descendre un câble dans la face nord de l'aiguille du Midi, qui fait 1500 mètres de dénivelé, parcouru par les avalanches.
Et c'est un projet, donc, qui va voir le jour en 1955, lorsqu'est inauguré, justement, le téléphérique de l'aiguille du Midi.
C'est d'alpinisme qu'il s'agit, mais d'un alpinisme de tout repos dans le massif du Mont Blanc, maintenant doté du plus haut téléphérique du monde. Il offre aux amateurs de confort la possibilité de prendre d'assaut et sans peine le Mont Blanc en se laissant porter le long de son fil jusqu'à 3840 mètres.
Et alors c'était une archive pâtée de 55, l'année de l'inauguration du téléphérique de l'aiguille du Midi. Cette archive très gentille, un peu touristique, ne donne pas la mesure de l'exploit qui a été réalisé. C'est d'abord le téléphérique pratiquement de tous les records, ce téléphérique.
Oui, il y a 5 records mondiaux qui sont battus avec ce téléphérique, qui est en fait moins une aventure technique qu'une véritable aventure humaine. Des centaines d'ouvriers ont permis la construction.
Français et italiens. C'est comme pour le tunnel, on oublie toujours que les Italiens, c'est une collaboration franco-italienne.
Oui, tout à fait. Chaque année, on a les ouvriers français traverser la vallée Blanche à pied pour aller accueillir les ouvriers italiens et les amener au pied du chantier. Donc 5 records, le téléphérique le plus haut du monde, c'était dit dans l'archive. Le plus gros téléphérique avec une cabine de 80 places sur le premier tronçon, le plus grand avec sa portée de 2900 mètres, le plus rapide puisqu'on atteint 40 km/h pour la première fois, et puis le plus puissant avec des moteurs surpuissants pour l'époque.
Et comment est-ce qu'on a fait justement pour descendre ou pour monter ces câbles gigantesques? Un câble de 3 km de long, c'est quand même absolument monstrueux à faire. C'était extrêmement difficile. En plus, on est sur des pentes très raides pour ceux qui connaissent la vallée de Chamonix.
Il a fallu non seulement convaincre les ingénieurs qu'ils l'étaient, ceci dit plus tôt, et surtout les chamonnières eux-mêmes qui connaissent le mieux les dangers de la haute montagne. Mmh. Il a donc fallu transporter 1500 mètres de câbles à dos d'homme, chacun portant à peu près 30 kilos enroulés dans son dos. Puis trois guides chamaniards et trois guides du Val d'Aoste sont descendus en rappel au bout de ce câble, dans la face de 1500 mètres de long, parcouru par les avalanches, devant secouer le câble régulièrement pour qu'il ne se fiche pas dans la glace, boucher les rochers avec des morceaux de bois, et au bout de 8 heures de ce périple et de ce rappel, parvenir en bas et le tendre avec un autre câble monté du fond de la vallée pour prouver qu'il était possible de tendre un câble de 3 km de long entre le sommet et la base.
Et creuser la roche au sommet, construire trois gares, hein, puisqu'il y a eu, il y a celle du départ, hein, il y a Chamonix, il y a ensuite le plan de l'aiguille, et ensuite il y a l'aiguille du Midi à 3800 mètres, une altitude donc qui permet aujourd'hui, un téléphérique plutôt, qui permet aujourd'hui à des touristes d'atteindre l'un des plus hauts sommets des Alpes. Un reportage de Stéphane de Mallard et de Jean-Pierre Zinc en 1993.
Alors on vient de sortir de la cabine du téléphérique de l'aiguille du Midi. Donc on est à une altitude, on n'est pas tout à fait à 3842 mètres qui est le sommet vraiment de l'aiguille. On est un petit peu en dessous. Voilà, c'est froid là. Jean-Pierre, rapidement là, tu peux les décrire parce que moi je les connais pas encore tous là par leur nom là.
Alors de gauche à droite, ben là, la plus prestigieuse aiguille verte, les droites, les courtes. Qui sont des sommets qui, les droites font 4000 mètres, les courtes 3009, tu vois, c'est quand même des altitudes très très hautes. Une grande arête déchiquetée de rochers, les aiguilles rouges du Dolan, ça s'appelle. Le Mont Dolan, au fond, qui est la frontière entre la France, la Suisse et l'Italie. Ensuite, si on revient par là, ben, les célèbres, les petites Jorasses, puis les grandes Jorasses.
Ouais.
Et puis, si on regarde plus loin, ben, là, on a les montagnes d'Italie avec le Grand Paradis.
Ça fait rêver, hein, cette énumération de sommets. Pierre Louis Roy, vous le prenez souvent, le téléphérique de l'Aiguille du Midi?
Oui, je le prends régulièrement, tant l'été, parce qu'effectivement, le panorama est admirable, que l'hiver pour descendre la vallée Blanche.
Téléphérique donc inauguré, je le répète, en 1955, même si ce reportage date de 93, il n'a pas changé depuis. Il y a eu beaucoup de changements en 40 ans, entre le reportage qu'on vient d'entendre et l'inauguration en 55.
Non, peu de changements, si ce n'est que le téléphérique a été entièrement rénové en 91, avec un nouveau système et de nouveaux records mondiaux.
Et pas d'accident majeur, comme c'était le cas du tunnel du Mont-Blanc. Alors justement, je me tourne vers vous, Bertrand Lemoine. Hein, vous êtes ingénieur des ponts et chaussées, auteur d'un livre sur les grands travaux. Où en est, au moment où est inauguré l'aiguille du Midi, le téléphérique de l'aiguille du Midi, où en est le tunnel du Mont-Blanc? Ça aussi, c'est un vieux projet.
C'est un projet auquel on songeait déjà dans les années 1830. À l'époque, on avait déjà construit des routes importantes, le Simplon, par exemple, sous Napoléon. Et on se posait la question, avec l'avènement progressif des chemins de fer, surtout sous le Second Empire, comment franchir cette barrière formidable que constituaient les Alpes. Après avoir hésité, d'ailleurs, on a choisi de faire le premier tunnel, non pas sous le Mont-Blanc, mais sous le Mont-Cenis, un peu plus au sud. Un tunnel assez important, qui a mis beaucoup d'années à se construire, malgré le perfectionnement progressif des méthodes de construction, et qui a été suivi, en fait, par quatre autres grands tunnels. Donc, entre 1871, inauguration du Simplon, du Mont-Cenis, et 1911, on a construit 5 grandes traversées des Alpes, dont le plus long est le Saint-Gothard, qui fait pratiquement 20 km, mais qui sont tous des tunnels ferroviaires. Et ça a été déjà un exploit que de traverser cette barrière, donc en France, mais aussi en Suisse et en Italie, pour progressivement rejoindre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud.
Et pourquoi pas le tunnel sous le Mont-Blanc, justement? Pourquoi a-t-on attendu si longtemps?
Alors le Mont-Blanc, c'est une montagne formidable, le Mont-Blanc, c'est quand même la plus haute montagne d'Europe, et passer sous une telle couche de rochers, parce que le tunnel actuel passe sous 2500 mètres à peu près de roches, c'était certainement plus compliqué, a-t-on jugé, que de percer ailleurs des tunnels. Cela dit, le Saint-Gothard, on a construit 80 tunnels, par exemple, avec ce grand tunnel de 20 km pour traverser les Alpes. Donc les autres travaux étaient aussi assez complexes. Et on est reparti, en fait, dans les années 50, 60, cette fois-ci avec le tunnel sous le Mont-Blanc, dans une deuxième campagne de grand percement, mais qui était cette fois-ci des tunnels routiers ou autoroutiers. Et le tunnel sous le Mont-Blanc a été le premier percement moderne, au fond, pour la route à travers les Alpes.
Complexité aggravée par les rapports franco-italiens, qui ont fait aussi traîner le projet pendant un certain temps. Il a fallu attendre, d'abord, il y a eu une alliance ou un accord franco-italien en 1947. Et puis alors, il y a eu bien entendu l'Europe, la construction européenne, le traité de Rome et la perspective grâce au tunnel. D'ailleurs, les Italiens y étaient plus attachés, dit-on, que les Français, la perspective de voir se développer ainsi les transports, enfin entre l'Italie et la France.
Oui, bien sûr, il y a ce contexte politique de construction de l'Europe qui fait que cette frontière, bien qu'elle soit déjà percée par plusieurs tunnels, devait être franchie par la route et pour faciliter ces échanges. Donc il y a aussi un contexte économique, bien sûr, qui s'est développé. Et puis un contexte bilatéral, bien entendu. Un tunnel transfrontalier, on le perce en général en commençant de part et d'autre simultanément. C'est ce qui s'est produit, d'ailleurs, avec des équipes différentes, bien que la technologie soit identique. Et on a, avec ce tunnel, sans doute concrètement fait avancer l'idée de l'Europe, comme après d'autres tunnels, et le tunnel sous la Manche, par exemple, aussi participeront à cette construction, je dirais, physique de l'entité européenne.
Et une construction qui commence avec le premier coup de pioche, on dit plutôt d'ailleurs coup de mine dans le cas du tunnel du Mont-Blanc, donné le 8 janvier 1959 de part et d'autre du Mont-Blanc.
Monsieur Robert Buron, ministre des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme, vient de déclencher, en appuyant sur un bouton, le tir électrique de la première volée de mine. Dans quelques heures, les équipes de mineurs commenceront leurs travaux sans interruption, de jour comme de nuit. Dans 4 ans, les automobilistes pourront emprunter le tunnel, 11 km 600 sous 2500 mètres de roche, air conditionné, chaussée large de 7 mètres, capacité de 400 véhicules à l'heure. Pour aller de Paris, de Bruxelles, de Strasbourg, de Genève jusqu'à Rome, il ne sera plus nécessaire en 1963 de passer par la côte méditerranéenne. C'est dire la portée de l'entreprise qui démarre aujourd'hui au pied du Mont-Blanc. Ici Chamonix, à vous Paris.
Vive le tunnel qui réunit deux pays. Vive le tunnel de la France à l'Italie. Au massif du Mont Blanc, les autos par milliers gravissent la montagne.
Et c'était Vive le tunnel, composé à la gloire du tunnel du Mont-Blanc, bien sûr, par Germaine Bardel et Pierre Levet. Ça fait beaucoup sourire, cette chanson, peut-être un peu ringarde aujourd'hui. Mais enfin, ça montre bien toute la fierté qu'on avait de construire ce tunnel, qui commence, dont la construction commence en 1959, Bertrand Lemoyne, et qui a été, quand même, c'est un exploit, c'est extraordinairement difficile.
Oui, c'est un tunnel d'abord qui est long, hein, qui fait 11 kilomètres, qui est sous une masse de roche importante, et une roche pas trop de très bonne qualité. Donc on était obligé, au fond, sur des techniques assez proches de ce qu'on avait fait pour le Mont-Cenis un siècle plus tôt, on perce des trous dans la roche, et avec des perforatrices, on met des explosifs, on fait exploser, et ensuite on évacue les déblais. Alors l'innovation quand même majeure pour le tunnel sous le Mont-Blanc, ça a été de monter ces perforatrices sur une espèce de gros wagon, enfin d'engin sur rail.
Jumbo,
avec ces perforatrices multiples, qui perçaient simultanément les trous. On faisait sauter, la perforatrice repartait à l'ouvrage, etc. Avec cette technique, on peut avancer beaucoup plus vite que ce qu'on avait fait auparavant, mais pas beaucoup plus vite. On fait 10 mètres par jour, peut-être, en moyenne. Et effectivement, ce chantier a été, comme tous les chantiers de tunnels, relativement laborieux pour cette raison. Mmh. Avec, bien sûr, aussi tous les problèmes d'infiltration d'eau et de consolidation de la roche, très comprimée. Vous faites un trou dans la roche, elle se décomprime. Il faut boulonner. On a mis 170 000 boulons, tiges, si vous voulez, ancrées dans le rocher pour tenir ce tunnel. Donc, une technologie, je dirais, éprouvée déjà, mais démultiplié par l'ampleur de la tâche, par cette longueur et cette position très particulière qu'a le tunnel sous le Mont-Blanc.
Technologie éprouvée, les hommes aussi qui ont été éprouvés. Je crois qu'il y a eu 21 morts pour 11,5 km. Ça fait quand même 2 morts au kilomètre. C'est assez inconsidérable. C'est rare dans les travaux publics.
Mais il faut bien dire que les grands tunnels comme ceux-ci ont une constante presque d'avoir un certain nombre d'essais. On cite un ratio comme ça, un mort par kilomètre. Le tunnel sous la Manche aussi, évidemment. Tous les grands tunnels ont eu à souffrir de ce genre d'accident. Les conditions de travail sont bien sûr difficiles. On fait sauter de la roche, il y a des éboulements, etc. On peut regretter, bien entendu, ces morts, mais ils sont souvent liés à la nature même des travaux très, très difficiles que sont en général les grands tunnels.
On n'en parle jamais ou on en parle rarement quand on passe aujourd'hui le tunnel du Mont-Blanc. Je suppose qu'il y a eu des morts aussi dans les 8 du midi, Pierre Birois.
Il y en a eu quatre.
Et puis aussi, alors là, vraiment, le cas du tunnel du Mont-Blanc, c'est un peu des anonymes. Qui était le maître d'œuvre de ces travaux, en fait?
C'est un tunnel qui a été entrepris par l'État, un peu dans cette perspective de grands travaux lancés, je dirais, sous la Ve République, qui était d'ailleurs une occasion de fierté nationale et qui a été, au même titre que le pont de Tancarville, que l'usine marémotrice de la Rance, par exemple, ou le Concorde dans d'autres domaines, cette espèce d'emblème de l'intervention publique dans les travaux, dans les grands chantiers, dans les grands chantiers industriels également. Ça a été plus une entreprise, je dirais, mue par la puissance publique qu'une initiative privée, comme l'avaient été d'autres tunnels entrepris effectivement au siècle précédent.
Et percé donc ce tunnel le 14 août 62, on a entendu une archive au tout début. Vous voulez intervenir, Pierre Bourrois, là-dessus?
Mais rappelez peut-être que c'est de l'échec de Dino Loratotino est lié justement au fait que ce tunnel emblématique était repris par les pouvoirs publics. S'il aboutit, c'est malgré tout grâce à l'intervention de Philippe Edmond Desailly, qui a fait un lobbying constant auprès du Parlement pour qu'au bout de 10 ans, le projet soit adopté.
Et puis alors, vraiment une technique éprouvée, parce que quand il est inauguré, donc le 14 août 62, on a entendu, je répète, une archive au tout début de cette percée du tunnel, pas inauguration, il ne sera mis en service que 3 ans plus tard, mais quand même, il faut réaliser une chose qui est assez inouïe, on est sous 2500 km de roche à un moment donné, on a creusé pendant 3 ans sur 11,5 km, et quand on se retrouve le 14 août 1962, on se retrouve exactement à l'endroit prévu, on est sous terre, enfin sous le rocher, hein, à 2 cm près. Ça, je trouve ça assez extraordinaire quand même.
Oui, il y a un bel exploit, je dirais, topographique, qui consiste effectivement à se faire en sorte que les deux galeries se rencontrent. On avait déjà au XIXe siècle sur certains tunnels obtenu cette précision. Le tunnel sous la Manche, on l'a obtenu aussi, avec d'autres méthodes et encore plus perfectionnées. Mais ça montre quand même effectivement que cette technologie des tunnels était déjà, à l'époque du tunnel Mont-Blanc, bien éprouvée, même si on n'avait pas depuis longtemps creusé un tunnel aussi long. On a d'ailleurs fait suivre ce tunnel sous le Mont-Blanc, d'autres percements dans les Alpes.
On y reviendra, mais en tout cas, à l'époque, je crois qu'il était le plus long tunnel routier du monde, d'où la fierté du général de Gaulle, bien sûr, quand il l'inaugure à la circulation le 16 juillet 1965.
Nous ne saurions compter, comme un voyage à l'étranger, l'inauguration franco-italienne du tunnel sous le Mont-Blanc. Elle permit pourtant au général de Gaulle de faire une incursion rapide en Italie, au terme de la route subalpine longue de 12 km. Il n'y a plus d'Alpes.
Voilà foré à sa base, le plus haut sommet de l'Europe. Voilà vaincu les éternels obstacles que sont l'altitude et les neiges. Voilà frayé à travers les Alpes, non plus seulement une voie ferrée, comme au Gothard, au Simplon, au Mont-Cenis, mais une belle et bonne route souterraine, la plus longue du monde, et là précisément où la nature l'interdisait le plus expressément.
Et c'était le général de Gaulle y ouvrant à la circulation le tunnel du Mont-Blanc le 16 juillet 1965, à l'évidence très fier d'être, alors que la France et l'Italie, hein, n'oublions jamais, c'est un projet à deux, est conçu ce tunnel le plus long du monde. Il ne l'est plus, hein, vous le disiez tout à l'heure, Bertrand Lemoine.
Oui, il y a d'ailleurs plusieurs tunnels dans les Alpes qui ont doublé presque systématiquement les anciens tunnels ferroviaires du 19e siècle. Au profit de tunnels autoroutiers, qui sont beaucoup plus longs. Le tunnel du Saint-Gothard fait 17 km. Il existe un tunnel en Norvège routier qui fait également 25 km. On est presque à la limite, d'ailleurs, je dirais, technique, et puis la limite aussi de sécurité acceptable pour des tunnels routiers aussi longs. On a bien vu un tunnel même de 11 km comme le tunnel sous le Mont-Blanc, en cas d'accident, pose des problèmes majeurs.
Il y a même, on parle même pas des tunnels ferroviaires, parce que là on bat tous les records, avec bien sûr le tunnel sous la Manche et ses 49 km. Le tunnel aussi qui rejoint l'île de Hondo et de Hokkaido au Japon, qui est sous la mer, qui fait plus de 50 km, 53
km. Oui, 53, presque 54 km, le tunnel du Seikan, hein, en fait, qui est un tunnel ferroviaire. Les très longs tunnels sont ferroviaires, justement pour des raisons de sécurité. C'est le choix qui a motivé le fait que le bien soit soit ferroviaire.
Justement, la sécurité, parlons-en, puisque c'est en pleine actualité, c'est le procès du tunnel du Mont-Blanc, c'est l'accident de 1999, 39 morts quand même, c'est incroyable, on a l'impression vraiment qu'on a sacrifié au fond, si on a fait une belle prouesse sur le plan technique, on s'est un peu moqué de la sécurité, Bertrand Lemoine. Cet accident, c'est quand même un échec, en tout cas c'est la fin d'un rêve, c'est la remise en question d'un rêve.
On peut pas dire qu'on se soit moqué de la sécurité. Je pense que les concepteurs en avaient conscience. Ils avaient prévu différents dispositifs de sécurité.
Bah oui, mais enfin, ça, on va se donner.
Pratiques aussi, procédures. Enfin, le procès appartiendra, enfin, permettra évidemment de voir si ces procédures étaient respectées. Elles étaient certainement insuffisantes. On peut dire seulement que dans ces grands tunnels, il y a des accidents, mais relativement peu tout de même. Mais ces accidents aussi prennent une dimension très très émotionnelle, et c'est normal parce que leur rareté même et le côté très très exposé de ces tunnels en tant que lieu, en tant qu'ils focalisent un petit peu les regards, évidemment attirent l'attention d'une manière plus particulière. Dans le tunnel sous le Mont-Blanc, on peut penser que on a été surpris tout de même par l'élévation très rapide de la température et par au fond cet effet de four
on n'a pas prévu ça.
On l'a pas suffisamment en tous les cas pris en compte dans les dispositifs d'évacuation, et c'est clair.
Un mot là-dessus, Pierre-Louis Roy, parce que il y a aussi la circulation. Au début, c'est un succès considérable, très vite, mais alors maintenant, on a une circulation notamment de camions qui fait se plaindre un certain nombre d'habitants de Chamonix, de même font critiquer le téléphérique de l'Aiguille du Midi à certains moments. En deux mots, il nous reste quelques secondes à peine.
On l'a peu critiqué parce que il soulève quand même l'enthousiasme malgré tout, et puis il a permis à Chamonix de continuer à être la capitale mondiale de l'alpinisme et du ski. Pour ce qui est du tunnel, comme tout tunnel, il a probablement des effets négatifs sur l'environnement. Mais c'est aussi un lien entre la France et l'Italie qui fonctionne. Il était au départ prévu surtout pour le tourisme. On n'anticipait pas dans les années 60 qu'il aurait un tel succès pour le transport de fret. C'est peut-être ce problème-là qui change la donne.
Merci Pierre-Louis Roy. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur de L'Aiguille du Midi et l'invention des téléphériques, un très beau livre qui vient de paraître aux éditions Glénat. Tandis que vous, Bertrand Lemoine, vous venez de faire paraître aux éditions Gallimard dans la collection Découverte, construire, équiper, aménager la France des ponts en chaussée. Vous avez également écrit Le Tunnel sous la Manche, un livre publié aux éditions du Moniteur. Vous avez pu entendre des extraits, vous allez lire également un Chamonix-Mont-Blanc, Les coulisses de l'aménagement, un livre de Bernard de Bardieu publié chez Eddy Montagne. Vous avez pu entendre des extraits des archives pâtées de 55 et 65 publiés paru chez Montparnasse Édition Vidéo Collection, le journal de votre année. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Philippe Duclos, Sandrine Laurent, Claire Destacan, Claire Tessier et Amélie Brie.